à tous. Nous sommes ici à Ouagadougou, dans la capitale du Burkina Faso, pour une émission exceptionnelle, un grand entretien. Notre invité est le président de la République du Burkina Faso, Marc-Christian Caboret. Bonjour, Monsieur le Président.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci de participer à notre émission internationale. Alors, nous sommes à l'étage où vous travaillez. Derrière ces portes, il y a votre bureau. Et nous sommes ici dans la salle d'audience. C'est ici que vous recevez vos homologues, des chefs d'État étrangers.
Exactement.
Ici notamment que vous échangerez avec le président français Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Qui viendra au Burkina Faso à la fin du mois de novembre. Alors nous reviendrons sur cette visite, mais tout de suite je vous propose de regarder ce focus, un portrait que nous vous avons consacré. Il a été réalisé par Bastien Bory et Rodolphe Clémondeau.
Nous pouvons être sûrs et confiants que nous ferons un coup chaos.
Au soir de votre victoire à la présidentielle, l'accolade avec votre opposant n'a rien d'un coup chaos. Vous êtes l'un des rares chefs d'État burkinabé issus de la société civile et non de l'armée. Alors votre marque, Monsieur Caboret, serait-elle le rassemblement? La preuve, c'est l'armée que vous tentez très vite de réformer.
Nous avons besoin d'une armée républicaine, d'une armée apolitique et d'une armée opérationnelle.
À 27 ans, des études d'économie à Dijon en France font de vous un directeur de banque et un militant communiste. Avec votre ami Thomas Sankara, ses poings levés contre mains tendues, mais avec le même goût pour le sport. Avec son ennemi, Blaise Compaoré, vous obtenez le ministère des Transports, puis celui des Finances. Mais après votre élection à la tête du Burkina Faso, deux attentats djihadistes, dont le dernier il y a 2 mois, sonnent le glas des compromis. Vous devez adopter une posture d'homme fort.
C'est le lieu pour moi de condamner avec fermeté cet acte ignoble et barbare.
Derrière l'unité que vous pensiez bâtie, réapparaît le même champ de lutte. Pauvreté, sécurité, santé, gestion de l'eau. Et pendant ce temps, les Burkinabés concernés patientent.
On est fiers, on le soutient, on l'encourage. On est avec lui jusqu'à demain.
Mais demain arrive vite. Vous serez en 2018 à mi-mandat et une partie de ceux qui ont gardé un pied dehors après la chute de Blaise Compaoré pourraient redescendre dans la rue.
Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du Monde nous ont rejoints. Alors, vous êtes élu depuis 2 ans à la tête du pays.
Mais demain arrive vite. Vous serez en 2018 à mi-mandat et une partie de ceux qui ont gardé un pied dehors après la chute de Blaise Compaoré pourraient redescendre dans la rue.
Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du Monde nous ont rejoints. Alors, vous êtes élu depuis 2 ans à la tête du pays. Et vous avez été, votre élection a été saluée comme une transition démocratique. Mais aujourd'hui, des impressions se font sentir. Il y a beaucoup de personnes qui vous reprochent de ne pas aller assez vite, notamment pour éradiquer la pauvreté. Qu'est-ce que vous leur répondez à toutes ces personnes ?
Je voudrais simplement dire que je comprends bien l'impatience du peuple burkinabé face aux enjeux du développement et de la lutte contre la pauvreté. Mais en même temps, je voudrais simplement signifier que la lutte contre la pauvreté est une lutte de moyen et long terme. On ne peut lutter et éradiquer la pauvreté véritablement que lorsque nous avons mis l'ensemble des structures et je dirais même les projets structurants qui permettent de faire en sorte que nous sortions de ces difficultés que nous connaissons depuis déjà fort longtemps.
Mais vous pouvez leur donner peut-être une date, leur dire d'ici 1 an, 2 ans, vous verrez les premiers résultats, vous leur donner une échéance aux gens qui s'impatientent.
Je voudrais dire déjà qu'il y a eu déjà des résultats. 2 ans de mandat que nous avons eu à mener, il y a eu quand même des résultats significatifs dans tous les secteurs, aussi bien dans les secteurs de la santé, dans les secteurs de l'électrification, dans les domaines de l'éducation. Et je voudrais dire également que toutes ces avancées, quand nous prenons par exemple ne serait-ce que la santé, nous avons pris une décision de la gratuité des accouchements, qu'elles soient normales ou pas césariennes, et également l'appui que nous apportons aux jeunes de 0 à 5 ans, qui est une subvention que nous faisons. Cette subvention et cet appui touchent 25% des Burkinabés aujourd'hui. Donc
Monsieur le Président, oui. On peut le comprendre, les attentes sont énormes parce que vous avez beaucoup promis. Et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a maintenant une société civile très agissante au Burkina Faso. Il y a ce mouvement, le Ballet Citoyen. Est-ce que pour vous, c'est un petit peu comme une épée de Damoclès? Comment vous considérez ce mouvement?
Ce mouvement, nous considérons que le mouvement, le Ballet Citoyen est dans son rôle citoyen. Vous savez très bien que, comme je l'ai souvent dit, la société civile est un instrument nécessaire à faire un rappel au pouvoir public sur les engagements et les mesures que nous devons prendre. C'est pour cela que, de notre côté, nous considérons que ce n'est pas une épée de Damoclès. Ils sont dans leur rôle, nous écoutons, et ce qui est positif que nous pouvons mettre en œuvre, nous travaillons à le mettre en œuvre également, s'il y a des rectifications à faire. Donc c'est pour dire que, vis-à-vis de la société civile, nous considérons que nous avons tout à fait des rapports où nous respectons chacun dans son rôle.
Monsieur le Président, est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par les bailleurs de fonds? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une prime à la démocratie? C'est-à-dire que les pays qui ont fait une vraie transition démocratique n'ont pas l'air d'être plus aidés que ceux qui ne l'ont pas faite?
C'est vrai que, en tout cas, monsieur, ce que vous dites là est pour nous quelque chose de très important. Nous nous sommes battus dès le départ pour dire qu'il était important que les pays qui ont fait des élections et qui sont dans un processus démocratique, parce qu'au Burkina Faso, c'est quand même depuis 1960 le chef d'État civil qui a été élu dans notre pays. Tout le reste, c'était des coups d'État militaires. Et donc, de ce point de vue-là, cette prime-là n'existe pas. Et nous avons beaucoup insisté là-dessus. Néanmoins, ce que je peux dire, c'est que après l'élection, la table ronde des bailleurs de fonds que nous avons à Paris a été une table ronde qui a été positive parce que l'ensemble des partenaires qui ont participé ont fait des annonces qui étaient importantes puisque nous avions besoin d'environ 5 900 milliards de francs CFA. Nous en avons eu 15 000 en termes d'annonces. Maintenant, comme je l'avais dit également, il faut travailler à mobiliser ces ressources.
Mais est-ce qu'elles se sont concrétisées, ces annonces?
C'est concrétisé. C'est en cours pour certains. D'autres sont concrétisées. Je voudrais simplement dire que, comme je le disais, que ce soit dans le domaine de l'électricité, que ce soit dans le domaine de la décentralisation, un certain nombre de choses ont été déjà mises en œuvre. Donc, c'est pour dire que c'est des choses qui sont en cours.
Oui, qui sont en cours et qui,
voilà, et qui se mettent en place.
Il y a une actualité, Monsieur le Président, qui concerne de très nombreux pays, le terrorisme, New York, il y a encore quelques jours. Alors, le Burkina a longtemps été épargné par le terrorisme. Mais depuis que vous avez été élu, votre capitale, Ouagadougou, a été touchée deux fois. La première fois, c'était en janvier 2016. Il y a eu 30 morts, 70 blessés. On écoute ce que vous disiez à ce moment-là.
Pour ma part, je dirais simplement que vous savez que le terrorisme s'en fout complètement de la démocratie. Comme vous le savez, ce sont des personnes qui, sur la base d'une conception erronée de la religion, visent non seulement à disloquer les économies des pays, à créer le non-État pour imposer leur vision obscurantiste.
Monsieur le Président, votre pays a toujours été salué pour sa coexistence religieuse, pacifique. Alors comment interpréter ces attentats? Est-ce que c'est parce que vous êtes lancé dans des opérations contre des groupes djihadistes, notamment dans le Nord? Ou est-ce parce que, ce que disent certains, que la sécurité et le renseignement sont moins bien maîtrisés par vos équipes que par celles de votre prédécesseur, Blaise Compaoré?
Non, je voudrais dire simplement qu'il n'y a pas une remise en cause de la convivialité religieuse qui existe au Burkina Faso. Je pense que de tout temps, toutes les religions sont vraiment ensemble et travaillent tous les jours pour l'intérêt du Burkina Faso. Je voudrais simplement noter que c'est vrai, le Burkina Faso a été toujours considéré comme un oasis de paix, puisque dans toute la tumulte sous-régionale, nous étions le seul pays non touché par les attaques terroristes.
Mais justement, monsieur,
je dois rappeler, si vous permettez, que l'ex-président Blaise Compaoré a joué des rôles de médiation au Mali qui ont fait que, de façon constante, nous avons une certaine collusion. Je répète bien, je pèse mon mot.
Collusion
avec les forces djihadistes qui sont au Mali.
Ce que vous refusez, vous, aujourd'hui?
Nous, Donc, nous estimons que nous ne pouvons pas laisser le Burkina Faso comme étant une plate-bande où nous passons des armes, où nous passons de la drogue et nous faisons des trafics de tout genre. Donc forcément, nous devenons un obstacle pour ces personnes-là. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait normal que le Burkina soit visé. Ce n'est pas une question de capacité et des forces d'information de nos services de sécurité en termes d'information, mais c'est plus une question que la collusion permettait de masquer un peu toutes ces insuffisances.
Certains estiment tout de même, Monsieur le Président, que vous avez une sorte de méfiance vis-à-vis de tout ce qui est expert militaire dans votre pays, peut-être parce qu'il y a eu cette longue histoire de putsch, dont le dernier assez récemment. Est-ce que effectivement vous êtes dans une attitude de méfiance par rapport à tout ce qui vient du renseignement, etc.
Mais pas du tout. Je suis tout à fait désolé. Nous avons mis l'Agence nationale de renseignement, qui aujourd'hui est en cours, qui est appuyée par différents pays dans sa mise en œuvre.
Mais beaucoup des grands experts ont été soit nommés ambassadeurs ici et là, ou attachés militaires en France ou ailleurs.
Vous savez, le pays a besoin de renouvellement. L'expertise, ceux qui étaient experts hier, sont peut-être dépassés par l'expertise d'aujourd'hui. Donc il est tout à fait normal que nous rebâtissions une agence nationale de renseignement qui est conforme, je dirais, au niveau BABA dans ce domaine. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons l'appui de partenaires qui forment ces éléments qui vont nous permettre de mettre une véritable institution qui va s'occuper de renseignement aussi bien intérieur que du renseignement dans la sous-région.
Monsieur le Président, dans ce conflit avec les groupes djihadistes, on a quand même l'impression que le Burkina Faso est en train de perdre une partie entière de son territoire, qui est le nord, où il y a des enseignants qui ne peuvent plus enseigner, qui sont chassés des villages, et où des groupes prennent quasiment en charge la gestion, ou du moins dominent le pouvoir dans certains villages, dans certaines régions entières.
Je pense que c'est excessif de penser que nous perdons une partie de notre territoire ou le nord de notre territoire au Burkina Faso. C'est vrai qu'il y a des points de récurrence dans un certain nombre de zones bien limitées dans lesquelles ces problèmes se produisent, mais je peux vous assurer que nous avons, malgré, je dirais, les actions spontanées qui sont réalisées ça et là, une bonne maîtrise de notre territoire. La deuxième question que je voulais ajouter, c'est que vous savez que dans le cadre du G5, nous avons mis des fuseaux. Les fuseaux qui concernaient le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et chacun devait faire en sorte d'assurer la sécurité des frontières.
Monsieur le Président.
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et évidemment, nous sommes obligés de faire face à des gens qui nous attaquent sur les premiers postes de notre pays et qui repartent au Mali.
Est-ce que la solution est forcément militaire dans cette région-là du Soum, du nord du pays?
Dans un premier temps, il faut assainir. Forcément, nous avons dit, il faut également mettre en place des projets de développement qui permettent aux gens de se sentir concernés par le développement du Burkina Faso dans son entièreté. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons mis un plan d'urgence que nous avons pour effectivement permettre les réalisations d'infrastructures socio-économiques dans la région, permettre également de sédentariser les gens avec la mise en œuvre de barrages, d'autres activités qui permettent de trouver du travail pour les jeunes et ainsi de suite. C'est pour dire que tout doit être lié, aussi bien l'aspect militaire que l'aspect également de l'investissement économique.
De l'aide aux éleveurs peuls, par exemple.
Absolument.
Monsieur le Président, pour revenir sur la question de la sécurité, vous venez d'évoquer le G5 Sahel. Il a été créé en 2014. Il regroupe 5 pays, le vôtre, le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Donc, son objectif, c'est de coordonner et de lancer des opérations contre les groupes djihadistes. Mais le G5 Sahel a bien du mal à trouver son financement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est un problème de confiance? Ou est-ce que c'est, comme disent certains, parce que les 5 pays du G5 Sahel demandent trop d'argent?
Bon, nous ne demandons pas trop d'argent. Disons que l'objectif, effectivement, du G5 Sahel avait demandé à créer une force conjointe pour mener, je dirais, un combat direct contre les forces djihadistes et les forces terroristes dans la zone. Et évidemment, les Nations Unies, la résolution qui a été adoptée, n'a pas accepté de pouvoir considérer les forces conjointes du G5 Sahel comme la MINUSMA.
Alors, la force d'intervention, de paix, pardon.
Voilà, de paix qui est des Nations Unies. Donc, de ce point de vue-là, les Américains qui étaient opposés à cette idée ont considéré que, concernant les charges de personnel du G5, il appartient au pays de les assumer. Mais comme
vous
nous l'avons dit...
Vous ne pouvez pas les assumer.
Nous l'avons dit, il serait quand même difficile d'envoyer des troupes combattantes sur le terrain à des conditions de salaire qui sont au minimum par rapport aux troupes qui sont de l'aménagement qui sont sur
oui,
le
mais
terrain.
Ces troupes défendent votre territoire.
C'est non, des parce que c'est des troupes qui défendent les territoires, mais qui sont capables d'agir de façon synchronisée avec Barkhane sur le terrain, dans des zones précises d'autres pays.
Justement, est-ce que vous trouvez que le mandat du G5 Sahel est vraiment clairement défini ? C'est la lutte contre le terrorisme ou c'est la lutte aussi contre tous les trafics frontaliers ?
C'est tout, parce que tout est lié. Les trafics, le terrorisme se nourrit des trafics. Donc forcément, il est impératif de lutter y compris contre le terrorisme et contre les trafics également. Donc le mandat pour nous est clair. Aujourd'hui, on se réjouit que, évidemment, l'Union européenne a apporté sa contribution, la France, les pays membres du G5 apportent leur contribution, les États-Unis, et nous attendons la rencontre de la table ronde des partenaires financiers qui aura lieu en décembre à Bruxelles, pour voir un peu plus clair, je dirais, dans le financement du G5.
Dans un pays voisin, le Niger, il y a eu récemment une embuscade dans laquelle 4 soldats américains ont été tués. Et on est en train de découvrir qu'en fait, ils n'étaient pas du tout en mission de formation, mais en mission tout court, sur le terrain, pour appréhender et tuer des terroristes. Est-ce que dans votre pays, les troupes américaines sont présentes et qu'est-ce qu'elles font exactement ?
Je dois vous dire que dans notre pays, il n'y a pas de troupes américaines qui sont présentes au Burkina Faso dans ce cadre-là.
C'est-à-dire, est-ce que vous avez, elles sont présentes pour faire de la formation ou pas présentes
notre
du tout ?
Notre coopération avec les États-Unis, c'est essentiellement des relations de formation. Coopération militaire, comme nous avons d'ailleurs avec la France et d'autres pays, qui viennent de temps en temps nous apporter leur concours au renforcement de la spécialisation de nos soldats.
Mais c'est ce qu'on disait au Niger aussi.
Voilà. Mais en dehors de ça, nous n'avons aucune troupe américaine chargée d'une mission spécifique au Burkina Faso. Ça, je peux vous donner cette assurance-là.
Écoutez, Monsieur le Président, si vous voulez bien, nous allons nous interrompre quelques minutes pour une courte pause et puis nous nous retrouverons ensuite pour poursuivre cet entretien.
Merci d'écouter RFI, il est 12h28 à Paris.
Chantal Laureau.
Le point sur l'actualité de ce dimanche, vague d'arrestations sans précédent en Arabie Saoudite. 11 princes, des dizaines de ministres, anciens et actuels, des hommes d'affaires, ont été interpellés hier soir. Épisode spectaculaire de la lutte contre la corruption menée par Mohamed Ben Salman. Le prince héritier de 31 ans, nommé en juin par son père, le roi Salman. MBS, comme on le surnomme, entend réformer le royaume ultra-conservateur d'une main de fer. Une main de fer qu'il a montré également dans la crise avec le voisin qatarien. Deux attentats suicides ont fait au moins 8 morts ce matin au Yémen. Ils ont visé les services de sécurité à Aden, la grande ville du Sud, sous contrôle des forces gouvernementales. Aucun dictateur ne doit sous-estimer les États-Unis. Cette petite phrase, allusion à peine voilée à la Corée du Nord, a été prononcée aujourd'hui par Donald Trump sur la base militaire américaine de Yokota, à l'ouest de Tokyo, au premier jour d'une tournée asiatique qui va mener le président américain dans 5 pays. RFI Tokyo, Frédéric Charles.
Face à une Corée du Nord qui considère Donald Trump comme irrémédiablement dérangé, le président américain à son arrivée à Tokyo répond devant des troupes américaines, après avoir revêtu un blouson d'aviateur, qu'aucune nation, aucun dictateur ne doivent sous-estimer la détermination des États-Unis. Nous dominons les airs et les mers et si nécessaire, nous sommes prêts à nous battre et à gagner comme toujours.
« Nous sommes de retour à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour un numéro exceptionnel d'International, un grand entretien avec le président de la République, Roch-Marc Christian Caboret, et avec moi pour l'interroger, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde. Alors, Monsieur le Président, avant de revenir sur les développements de l'actualité dans votre pays, nous souhaitions vous entendre sur la question du franc CFA. Cette monnaie est commune à 15 États, c'est un héritage de la colonisation. Aujourd'hui, elle fait de plus en plus débat et on écoute un économiste, pour certains, elle est un frein au développement.
Le franc CFA profite à l'élite franco-africaine, les grands groupes français qui sont installés en Afrique parce qu'ils peuvent faire des bénéfices, les rapatrier sans problème. Et puis, cette élite africaine qui peut s'offrir des appartements à Paris parce que le CFA, c'est la garantie de convertibilité avec l'euro et puis c'est la liberté de circulation des capitaux. Et donc, les populations africaines qui sont rurales à 70% ne bénéficient pas de cette monnaie. Quand vous sortez de nos capitales africaines, vous avez l'impression d'être dans des économies sans monnaie. Vous avez l'impression qu'il n'y a que du troc. Vous ne trouvez pas d'argent.
Monsieur le Président, alors est-ce que, quand l'on entend cet expert, est-ce que les États africains, dont le Burkina Faso, ne devraient pas rompre avec le franc CFA ?
Vous savez, la question de la monnaie est une question qui est sensible, d'une part. Mais je voudrais simplement dire deux choses. La première des choses, c'est que nous devons discuter du franc CFA en quittant le chemin de la rhétorique classique. Le second aspect...
La rhétorique classique, c'est-à-dire
liée... La rhétorique qui fait que c'est un débat de type politique.
C'est-à-dire lié à la colonisation.
Non, de type politique. C'est-à-dire que nous disons... Parce que quand je parle d'hérétique, c'est pour dire que depuis 1960, lorsque les États africains ont acquis l'indépendance politique... Le débat sur l'indépendance économique s'est posé depuis cette époque-là. Donc je dois dire que le débat sur l'indépendance économique et la monnaie, ce n'est pas des débats qui sont nouveaux. Mais il faut qu'on avance. Pour avancer, il faut que nous ayons l'analyse qui consiste à dire que nous ne pouvons pas aller chaque pays africain indépendamment à une monnaie.
Pourquoi ?
Nous devons travailler. Non, parce que la base économique... ne permettra pas de sous-tendre véritablement la qualité de cette monnaie. C'est pour cela qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons déjà engagé un processus de mettre en place une monnaie de la CEDEAO. Ce processus est en cours, nous y réfléchissons, nous y travaillons. Ce que je voudrais dire, c'est qu'une monnaie, qu'elle soit africaine, coupée de l'euro ou pas, a besoin de mener des opérations internationales, d'une manière ou d'une autre. Donc, réduire l'argument au fait que ça profite simplement à l'élite parce que ça permet d'acheter des appartements, ça permet aux élites de dépenser, c'est une manière restrictive. C'est pourquoi je dis que c'est un peu de la rhétorique. Parce que finalement, est-ce que ceux qui ont leur monnaie aujourd'hui nationale n'ont pas des appartements ailleurs? C'est pas ça la raison.
Monsieur,
je pense que la raison... Oui.
Que pensez-vous de cet argument selon lequel le CFA, en fait, c'est le bouclier de stabilité pour les économies africaines? Est-ce que c'est un argument que vous retenez?
Non, c'est un argument qui a été retenu, je dirais, depuis soit le début jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense que nous pouvons tout à fait, et il appartient aux Africains de décider, de changer les règles du jeu.
Moderniser le système.
Voilà, nous pourrons changer les règles du jeu et je dois vous assurer qu'en tout cas, au niveau de la CEDEAO, nous avançons et je pense que nous pourrions en tout cas travailler à ce que nous ayons une monnaie de notre sous-région.
Monsieur le Président, quand vous dites que la CEDEAO travaille à fabriquer sa monnaie pour la sous-région, est-ce que ça signifie qu'il y aurait deux monnaies ou alors on travaille à une monnaie commune qui ne serait plus rattachée au trésor français comme c'est le cas aujourd'hui? Puisque aujourd'hui, la Banque de France a une voix quasiment prépondérante dans la gestion du franc CFA.
Techniquement, je veux dire, tout est possible. Nous pouvons effectivement avoir notre monnaie sans être liés forcément à la France. Ça, c'est possible. Donc, c'est pourquoi je dis, nous avons intérêt un peu plus à nous concentrer sur les questions techniques, les questions économiques de la mise en place de la réflexion sur la mise en place de notre monnaie que simplement d'aller sur le fait que c'est une monnaie coloniale, l'Afrique doit être indépendante. Ça, c'est ce que j'appelle la rhétorique parce que ça fait longtemps qu'on entend ça, il faut qu'on avance. Et c'est pourquoi je dis, l'Afrique, c'est le même problème. Nous sentons que si l'Afrique était unie, nous représentions une meilleure force. Mais aujourd'hui, malheureusement, bien que l'OUA, l'Union africaine, ait été mise en place, on constate toujours que c'est les questions politiques qui sont les plus dérangeantes sur la nécessité de pouvoir renforcer la capacité du point de vue économique de l'Afrique pour faire face, je dirais, et occuper notre place dans le monde, dans le commerce
est-ce
mondial.
Est-ce que vous réfléchissez alors à la création de cette monnaie nationale? Est-ce que vous avez déjà entamé des travaux sur cette question ou c'est pour vous ce n'est pas une urgence?
Non, mais je vous ai dit que c'est une urgence pour nous puisque la CEDEAO est déjà très avancée, les banques centrales y travaillent et je pense que, en tout cas, très prochainement, nous pourrons créer notre monnaie, c'est possible.
Est-ce que vous attribuez la faiblesse des échanges interrégionaux à ce problème monétaire ou est-ce que ce problème de la faiblesse des échanges est tout autre?
Le problème des échanges n'est pas forcément lié aux questions monétaires parce que il y a d'abord toutes les questions d'infrastructures routières, de transport, pour pouvoir évacuer nos produits. Vous savez très bien que, ne serait-ce déjà que les vols aériens pour aller en Afrique dans certains pays, on est obligé de passer par Paris, ce qui est aberrant. C'est ça les réalités. Et si nous avions, et c'est pour cela que la réflexion se mène sur la nécessité de renforcer les structures ferroviaires en Afrique pour permettre de transporter beaucoup plus de produits et de pouvoir faire des échanges entre, je dirais, pays qui sont plus importants. Et ça, c'est quand même c'est plutôt les problèmes d'infrastructure qui sont les plus importants.
C'est prioritaire.
Voilà, ça, c'est important.
Monsieur le Président, poursuivons cet entretien. Dans 3 semaines, le président français Emmanuel Macron entamera un voyage sur le continent africain. Vous serez la première étape du président français. Il n'y en a pas eu de visite au Burkina Faso depuis 31 ans d'un président français. Et à l'université de Ouagadougou, il devrait prononcer un grand discours sur sa conception des relations entre la France et les pays africains. Pour vous, monsieur le président, est-ce que ces relations doivent évoluer? Est-ce qu'une page doit se tourner?
Je pense qu'une page déjà se tourne, parce que du point de vue en tout cas des premières impressions qu'on a eues de la politique que veut mener le président Macron, je pense que tout ce qui est France-Afrique, etc., il a décidé également de ne pas se mettre dans ces types d'activités. Donc nous devons avoir aujourd'hui des rapports d'égalité, des rapports d'intérêt réciproque entre nos différents pays et des rapports de respect mutuel. Je pense que cela est important. Et je voudrais dire que pour nous, nous l'écouterons à son arrivée et sur sa vision de l'Afrique, de la jeunesse, etc. Et cela nous permettra de nous conforter ou pas sur sa vision.
Mais finalement, est-ce que ce n'est pas une sorte de continuité, cette façon pour un président français de venir s'adresser ici au Burkina Faso, mais aux Africains dans leur ensemble? Certains critiquent, par exemple, la conception même d'un sommet France-Afrique. Mm-hmm. Là, c'est un discours France-Afrique, mm-hmm. encore une fois.
Non, ce n'est pas un discours France-Afrique, parce que je pense que le panel auquel il s'adresse, ce n'est pas un panel de chefs d'État. C'est un panel qui concerne la jeunesse burkinabé dans son ensemble universitaire et non-universitaire. Et je pense également, et c'est la possibilité pour ces jeunes de pouvoir poser quelques questions pour mieux comprendre également ce que la France attend apporter comme renouveau dans ses relations avec l'Afrique. Puisque c'est un point de rupture aussi que les gens attendent. Je crois que le premier sentiment, je dis bien, que j'ai, c'est que le président Macron est engagé à ce que véritablement il puisse avoir une sorte de rupture dans les relations classiques qui existent entre l'Afrique.
Monsieur le Président, justement, quand le président Macron dit au G20 à Hambourg, ça ne sert à rien de déverser des aides en Afrique et notamment au Sahel, lorsque les femmes continuent à avoir 6 à 8 enfants, il y a un vrai problème culturel. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un renouvellement, une rupture avec le discours français sur l'Afrique?
Je pense que le président Alpha Condé lui a donné la réplique à cette époque, d'ailleurs, sur cette sortie malheureuse, que je considère comme malheureuse, et que, pour l'instant, je mets, je dirais, au compte, je dirais, des erreurs nouvelles quand on arrive, je dirais, à une position donnée. Et nous verrons donc lorsqu'il sera à Ouagadougou, si nous sommes sur la même tendance en ce moment, ce sera une vision totalement erronée et que nous allons également remettre en cause, ça c'est clair. Et les Africains ne sont pas d'accord sur cette façon de voir les choses. Autant des efforts doivent être faits sur la démographie, autant il ne faut pas poser le problème sur le plan culturel, etc. Je pense que c'est une erreur.
Pour vous, c'était une erreur. Mais vous, il vous semble qu'il est bien conseillé sur l'Afrique. Il a autour de lui maintenant un nouvel aéropage de conseillers. Il a fabriqué un conseil présidentiel pour l'Afrique avec des gens qui ne sont pas des diplomates, qui sont des gens de la sphère privée, des chercheurs, des chefs d'entreprise, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cet organe de conseil ?
Bon, vous savez, c'est un organe nouvellement mis qui n'a pas encore fait ses preuves. Donc, il m'est difficile de donner une appréciation. Je sais simplement que les compétences ont été choisies et certains que j'ai rencontrés m'ont dit qu'ils bon, ne savent pas pourquoi on les a choisis, parce qu'évidemment ils y sont, on les a proposés. Mais il est clair pour eux que si la vision n'est pas conforme à une nouvelle conception des rapports entre l'Afrique, c'est pour mener le même train-train, et sera appelé à démissionner de cette structure. Donc, attendons de voir, et à ce moment, je pourrais vous donner mon appréciation sur le rôle de cette structure.
Bien donc, on sait déjà, petite indiscrétion, Monsieur le Président, que cette structure travaille beaucoup avec le Président sur l'élaboration du discours qu'il prononcera à l'université.
Ah, j'espère, parce que je voulais dire simplement que ce qui est sûr, c'est que le Président Macron vient avec une nouvelle équipe. Ce n'est pas toujours évident que les gens aient une bonne connaissance de ce qui se passe en Afrique, de toute façon. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il peut y avoir des écueils par-ci, par-là, dans la manière de finaliser et d'avoir la vision sur la réalité de l'Afrique. Je crois que c'est important.
Restons sur les liens entre la France et le Burkina Faso, Monsieur le Président. Il y a quelques jours, François Compaoré, le frère de l'ancien président, a été arrêté à Paris à sa descente de l'avion à Roissy, puis il a été remis en liberté conditionnelle. Aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire avant examen d'une éventuelle extradition. Alors, il est poursuivi dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un journaliste d'investigation, Norbert Zongo. Ça remonte à 1980. 98. Alors, on sait que en 2014, la France, au moment de l'insurrection, avait exfiltré François Compaoré avec son frère, ancien président. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, vous, sur cette extradition qui est demandée de François Compaoré? Je sais que c'est une affaire de justice, mais est-ce que vous pouvez peser sur ce dossier? Est-ce que vous voulez peser?
Non, je dirais que difficilement je peux peser sur le dossier puisque c'est une question de justice, mais en tout état de cause, pour ma part, je considère que c'est déjà une grande victoire que le mandat d'arrêt ait connu son exécution sur le sol français. Le second aspect, c'est que, évidemment, nous avons renvoyé dès le lendemain la demande d'extradition qui a été portée donc au ministère des Affaires étrangères. Et comme vous savez, une longue procédure va s'engager maintenant entre l'État burkinabé et François Compaoré et ses avocats. Et ce qui est sûr pour nous et pour le peuple burkinabé, le souhait est que, en fin de fin, le tribunal puisse extrader François Compaoré au Burkina Faso pour qu'il vienne répondre de ce qui lui est reproché.
Pour que justice
Parce
passe.
Que nous avons tout Burkinabé que nous sommes, nous avons un devoir de redevabilité et nous devons répondre de nos actes devant la justice burkinabé. Je pense que ça me semble très important.
Monsieur le Président, il y a peut-être un obstacle qui est le fait que la France, qui a aboli la peine de mort, en principe n'extrade pas vers des pays dans lesquels la peine de mort est toujours en vigueur. Est-ce que ce pourrait être un obstacle au retour de François Compaoré au Burkina Faso?
Je voudrais dire que vous pouvez regarder dans l'histoire du Burkina Faso, il y a déjà plus de, d'une vingtaine d'années que personne n'a été exécuté. Et au Burkina Faso, je dirais de suite un jugement. Deuxièmement, nous sommes signataires du moratoire sur la peine de mort. Et je voudrais également dire simplement que, pour ma part, ça ne devrait pas être un grand obstacle. Et nous travaillons également à voir un peu comment, au niveau de nos avocats également, ils pourront défendre notre cause en la matière. Donc je voulais simplement vous rassurer et que la peine de mort, même si elle est dans nos textes, n'est pas appliquée au Burkina Faso. Et ça a été toujours notre position, bien que les discussions de la nouvelle commission constitutionnelle peuvent amener des progressions dans ce domaine.
Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation un peu compliquée, ayant eu des responsabilités sous l'Ancien Régime, des hautes responsabilités, ministre, président de l'Assemblée nationale, et aujourd'hui incarnant le renouveau et la volonté de justice, comment vous pouvez être à la fois comptable du passé et comment dire, l'incarnation d'une rupture avec ce passé?
Je dois quand même préciser que les délits sur lesquels, les crimes sur lesquels ils sont poursuivis, c'est quand même des crimes de sang. D'un côté, vous avez François Compaoré qui est poursuivi dans l'affaire Norbert Zongo. Mm-hmm. De l'autre côté, vous avez Blaise Compaoré qui est poursuivi également dans l'affaire Thomas Sankara. Et je pense que de ce point de vue-là, en tant que citoyen, j'ai assumé mes responsabilités. Et aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau législatif. Et, mais comme j'ai dit, comme tous les autres, si j'ai des casseroles quelque part, je répondrai également devant la justice. Mais je ne cesserai pas à me soustraire de la justice en quittant le pays. Et c'est ça, je dis, c'est le coup d'honneur que chaque responsable de ce pays doit avoir.
Est-ce que vous avez aussi un espoir, Monsieur le Président, que Blaise Compaoré reviennent au pays à un moment ou à un autre? Bon, il a obtenu la nationalité ivoirienne. Est-ce que vous essayez de peser également auprès des autorités ivoiriennes afin qu'il rentre au pays, confronter la justice?
De toute façon, je trouve que déjà, pour un président qui, après avoir géré 27 ans un pays, change de nationalité pour se soustraire à la justice de son pays, c'est vraiment pas à son honneur. Deuxièmement, je dis également que tout chef d'État qui est appelé devant la justice doit y répondre. Et c'est pour cela que lorsqu'on nous dit « Blaise Compaoré peut rentrer, elle va rentrer », nous disons « il n'a qu'à, il peut rentrer, il vient se présenter à la justice ». Comme certains, notamment le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw qui était à Abidjan, est rentré pour se soumettre donc à la Haute Cour de justice qui les avait donc convoqués pour justement tout l'ensemble du dernier gouvernement. Il est rentré, il est parti, il a subi, donc il répond devant la justice, c'est tout.
Est-ce que de là où il est, il peut encore nuire à votre pouvoir par ses réseaux?
En termes de nuisibilité, c'est déjà fait. Donc je peux vous assurer, c'est pour dire que les éléments et les informations montrent bien toujours un certain nombre d'implications sur, en tout cas, un certain nombre de situations que nous vivons aujourd'hui.
Alors, Monsieur le Président, vous parlez de Blaise Compaoré, des soupçons de son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara, hein, le président. Si vous voulez bien, nous allons revenir sur Thomas Sankara maintenant et regarder et écouter ce petit document sur ce chef d'État très jeune qui a été assassiné et qui est devenu une icône révolutionnaire.
Sa politique vise à rendre au pays, alors l'un des plus pauvres du monde, la dignité et l'espoir. Le capitaine et ses hommes montrent l'exemple, travailler, construire. Dans le domaine de la santé d'abord avec des dispensaires, des maternités. Son opération Vaccination Commando va permettre à 2 millions de Burkinabés d'être protégés de maladies ravageuses à l'époque. Une population secourue et mise à contribution.
En vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité.
Une nouvelle réalité où chacun est responsable, où les femmes désormais prennent leur place. L'émancipation de la femme, passe notamment par le coton, une des richesses du Burkina. Il faut produire et consommer local, dit Sankara. La révolution et la liberté passent par le travail. Projet ferroviaire, grand barrage. C'est aussi une révolution administrative. Chasse à la corruption, modestie du pouvoir. Sankara poursuit les corrompus, les tribunaux populaires font leur effet, jusqu'à parfois condamner des innocents, pas assez révolutionnaires.
Quand un journaliste se demande quelle est la plus grande victoire de la révolution, il dit ce n'est pas les routes qu'on a construites, les écoles, les dispensaires, les barrages, tout ça vous pouvez oublier. Le plus important, c'est qu'on a donné confiance, c'est que le peuple burkinabé a pris confiance en lui-même. Et il peut devenir maître de son destin.
La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.
Monsieur le Président, donc Thomas Sankara a été assassiné en 1987, cela fait exactement 30 ans. Au-delà du soupçon autour de Blaise Compaoré, un juge vient de demander à Paris de la levée du secret défense afin de déterminer le rôle éventuel de la France. C'est important pour vous que Paris lève le secret défense sur cette...
Je pense que ce serait une bonne chose, ce serait une preuve de bonne foi. Et quant à la manifestation de la vérité, en tout cas...
Mais quelle est votre conviction intime? Parce que vous avez suivi Blaise Compaoré quand il est arrivé au pouvoir. Vous êtes devenu un de ses ministres très rapidement. Donc vous avez peut-être une perception vous-même du rôle que la France a pu jouer.
Je préfère que nous laissions la justice régler ces questions parce que les impressions individuelles sont toujours sujets à caution. Donc les choses sont en cours. Je pense que le dossier évolue. Il y a eu des inculpations qui ont été faites au nombre de 17. Et je pense que c'est un dossier qui va connaître aussi très rapidement un dénouement.
Monsieur le Président, est-ce que politiquement, vous vous considérez comme l'héritier de Thomas Sankara? Est-ce que vous avez l'impression d'appliquer son programme ou finalement on a quand même un peu transigé le CFA, les bailleurs internationaux, etc.
Non, je pense que loin de moi, l'idée de pouvoir être l'héritier de cette grande légende du Burkina Faso qui a, comme je l'ai dit, réhabilité l'honneur du peuple burkinabé, qui est, comme on l'a souligné tout à l'heure, un peu pays le plus pauvre du monde, qui également a permis de restaurer la dignité, l'ardeur au travail, même si on doit considérer que 27 ans après, ces valeurs l'ont connu au fur et à mesure une faiblesse qu'il faut réveiller. C'est vrai. Il faut travailler à mettre le peuple au travail, que chaque Burkinabé sache que c'est lui-même qui contribue au développement du Burkina. C'est ça qui est le fondamental. Et malheureusement, aujourd'hui, on s'occupe beaucoup plus d'intérêts particuliers que d'intérêts collectifs. Et ça, c'est quand même un des défauts sur lesquels il faut continuer à travailler pour que l'ensemble des Burkinabés, que ce soit ceux qui sont nantis, ceux qui sont les plus pauvres, travaillent ensemble dans le développement du Burkina Faso.
Comment vous expliquez, Monsieur le Président, que Thomas Sankara garde une telle empreinte parmi la population burkinabaise? Est-ce que c'est aussi peut-être une forme de défiance par rapport aux élites d'aujourd'hui?
Non, je pense que Thomas Sankara, comme je le pense, sa pensée va traverser des âges, parce que c'est normal. Il a défendu des causes qui sont tout à fait justes, dans un contexte difficile pour lui, certainement. Et je crois que tous les débats que nous avons autour de l'indépendance économique de l'Afrique, autour de la nécessité que l'Afrique se solidifie, ce sont des points de vue qu'il a développés, comme ses prédécesseurs, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, etc. Donc, Thomas Sankara, c'est l'icône de la génération actuelle et donc c'est tout à fait normal.
Nous arrivons au terme de cette émission, Monsieur le Président. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celles de Sophie Malibaud, de RFI et de Christophe Fayad, du journal Le Monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International.
RFI, Radio France Internationale.
Santa Catarina, sana. Santa Catarina, sana. Nem te beba com as três palavras. Acera mangi verde banana maduro. Acera maresia que catema. Na pedra pilorinho de si somada. Santa Catarina, santa. Santa Catarina, santa. Santa que como responso vai curado. Santa que vale antinome revoltado. Santa que dá nome constado. Santa que planta que manda nascerado. Santa que tem pra bem ser preta. Santa que tomba rei que traz prato. Santa padueira de tropa com bombeiro. O samba com conga correr e banca de tudo que esqueca santa.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.